Top. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui donc dans notre sujet de cours qui s'appelle « La prophétie se réalise ». Eh bien ce soir, nous allons évoquer une névoie tout à fait particulière parce que, alors je le dis en introduction de ce qu'on va étudier ensemble, c'est qu'on a pratiquement, du moins à mon sens, fait le tour des prophéties qui se sont réalisées. C'est-à-dire qu'on a derrière nous 14 cours qui ont traité de ce qui est, à mon sens, peut-être que je me trompe et à ce moment-là, quelqu'un pourrait m'aider avec plaisir, mais on a fait, à mon sens, le tour des prophéties qui se sont déjà réalisées. Il y en a encore plein qui doivent se réaliser. Gog ou Magog, eh bien, c'est un concept très particulier parce que, et vous allez voir de quoi on parle, Zemachloket, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que ça va se réaliser? Ou est-ce que ça se réalise en ce moment? Et donc, c'est un petit peu un intermédiaire entre ce qui s'est réalisé et ce qui va se réaliser. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Mais avant cela, et avant de rentrer directement dans le texte de Gog ou Magog, qui est mentionné dans deux endroits différents dans le Talmud, ça c'est important de se rappeler, c'est marqué et dans le livre de Yeheskel, au chapitre 38 et 39, et c'est également marqué dans le livre de Zacharie, Zecharia, au chapitre 14. Donc on va voir pourquoi c'est marqué dans deux endroits différents et avec deux conclusions un petit peu différentes, bien que fondamentalement semblables. Pourquoi c'est marqué à deux endroits? Et est-ce que on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Ok? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais avant de rentrer dans le texte des prophètes, bien, je voudrais d'abord comprendre une chose très importante. Gog ou Magog, on parle d'une milchama. Et quand on parle d'une milchama, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le regard de manière générale du peuple juif sur la guerre. Est-ce que la guerre est quelque chose qui est positif d'après le peuple juif, négatif, ou alors on n'a pas vraiment d'avis sur la guerre en elle-même, quand il faut la faire, on la fait, et puis on ne se pose pas la question. La vérité, c'est que c'est une question qui n'a pratiquement jamais été traitée durant les 2000 dernières années. La question de la guerre n'a pas été traitée. Pourquoi elle n'a pas été traitée? De manière générale, il y a des gens qui en ont parlé, évidemment. Le Rambam a écrit tout un commentaire qui s'appelle « Ilchot Melachim Vemilchemotehem » dans la dernière partie de Yad HaChazaka. Mais de manière générale, les Rabbanim n'ont pas parlé des guerres. Pourquoi? Eh bien parce que pendant 2000 ans, la guerre, c'est pas nous qui la faisions. C'est les Goïm. Nous n'étions pas décisionnaires au niveau de la guerre. Est-ce qu'on doit faire la guerre? Est-ce qu'on peut faire la guerre? Est-ce qu'on ne peut pas faire la guerre? On était complètement au bon vouloir des nations, et donc c'est pas nous qui pouvions décider. Ce qui fait que les rabbanim ne se sont pas vraiment penchés sur le sujet. Mais lorsque le peuple juif revient et commence à redevenir maître de lui-même, il a fallu se reposer cette question-là. Est-ce que la guerre, c'est quelque chose qui est aimé par le peuple juif, haï par le peuple juif, ou, eh bien, on n'aime pas, mais on comprend l'importance. Alors, évidemment, vous aurez compris que, non, Am Israël n'aime pas faire la guerre. Non seulement n'aime pas faire la guerre, mais n'aime pas non plus tous les dérives qu'il peut y avoir après et à cause de la guerre. Je vous ramène à la Torah. Lorsque la Torah nous dit dans les Ilchot Milchama, dans la paracha de Kitetzela Milchama Loivecha, eh bien la Torah va nous parler de la fameuse Isha Yefat Toar, la fameuse belle captive, que lorsque tu pars en guerre, eh bien tu as le droit de prendre une femme que tu aurais vue là-bas, dans les prisonniers, et tu la prends avec toi. Évidemment, tous les commentateurs se disent, mais enfin comment c'est possible qu'on permette quelque chose comme ça? Et on répond, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah a parlé le langage de l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on l'a mis tellement de lois pour autoriser cette belle captive. Eh bien, c'est pour que faire en sorte que l'homme soit calmé dans ses ardeurs et finalement n'en veuille pas. Mais ça, c'est parce qu'on parle d'un juif. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un devoir de maîtrise, de Tohar Sheni, qui avait pour sujet que Chayalei Israël, que les soldats israéliens à l'université de Haïfa, que les soldats israéliens sont racistes. Ça, c'était le thème du devoir de maîtrise. Et l'argumentaire était que dans le monde entier, on n'a vu nulle part que lorsqu'un peuple et une armée, eh bien, étaient devenus des conquérants d'un peuple, d'un autre peuple, et que l'État militaire se poursuit sur une période longue à plus qu'une année, eh bien, on n'a jamais vu dans aucun pays du monde que les soldats ne violent pas les femmes de la population civile. Or, d'après la personne qui écrit le commentaire, eh bien, ça fait près de, je sais plus combien c'était, 45 ans, Machoukazé, que les Juifs, armes Israël, eh bien, est en état de conquête sur le pauvre peuple palestinien, et on ne voit pas les soldats de Tsahal violer les Palestiniennes. C'est donc la preuve qu'ils sont racistes. Ou alors, c'est la preuve que chez nous, on ne fait pas ça. Nekouda. Et donc, il faut bien comprendre que la guerre, c'est pareil. Et nous, on n'aime pas faire la guerre. Mais s'il faut la faire, eh bien, on la fait et on la gagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav Kook, dans son livre Oroth HaMilchama, il a écrit tout un paragraphe, il y a avec 9 parties, 10 parties, etc., sur ce que vient nous apprendre le concept de Milchama. Et le Rav Kook commence en disant la chose suivante. Je cite Oroth HaMilchama, chapitre 1. Nous dit le Rav Kook, Kshesh Milchama Gedola Ba'olam. Lorsqu'il y a une. Le Rav Kook écrit ces phrases-là durant la Première Guerre mondiale. Donc il nous dit, lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, Mitorer Koach Mashiach. La notion messianique se réveille. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, comprenez-moi bien. La guerre, eh bien, c'est ce qui fait avancer le monde de manière le plus rapide. Les processus peuvent des fois prendre des dizaines, voire des centaines d'années à se mettre en place. Et très souvent, on se rend compte qu'une guerre de 1 an, 2 ans, eh bien, va débloquer des choses avec une rapidité incroyable. Est-ce que ça veut dire qu'on est pour la guerre? Pas du tout, on est contre. Mais il faut le savoir que Kshesh Milchama Gedola Baolam, Mitorer Koach Mashiach. Dit le Rav Kook, alors qu'il parle de la Première Guerre mondiale, il dit Et à Zamir Igia, Zamir Haritzim, Areshaim Nikradim Minaolam, Veaolam Mitbassem. Le but de la guerre, c'est également que le mal perde et que le monde s'embaume. Et c'est très important de comprendre cela lorsqu'on commence, eh bien, à parler de Milchemet Gog Umagog. Parce qu'il y a un but à cette guerre. Un but à cette guerre, il va falloir essayer de comprendre quel est ce but. Ici, on parle de l'horaire Koach Mashiach. Mais en vérité, je vous ai dit tout à l'heure que Milchemet Gog Umagog, eh bien, on la cite à 2 endroits. On la cite, comme on a dit, eh bien, dans le livre de Yeheskel et dans le livre de Zecharia. Dans le livre de Yeheskel, le but de Milchemet Gog Umagog arrive à la fin de la guerre, où on nous dit ce verset qui est bien connu, « Veit gadilti veit kadishti leinei amim rabim. » Et je me grandirai, je serai grand et saint aux yeux du monde entier. Ça, c'est la conclusion de Milchemet Gog Umagog d'après Yeheskel HaNavi. La conclusion d'après Zecharia HaNavi, c'est tout simplement Vaya bayom ahou, Yehashem Echad, Ushemo Echad. Ce qui est relativement la même chose, bien qu'avec quelques nuances qu'on va essayer d'aborder. Ce qui veut dire que nous espérons et nous appelons le résultat de Milchemet Gog Umagog tous les jours. Tous les jours, 2 fois par jour, lorsqu'on dit le schéma, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, eh bien, cette phrase de Shema Israël, comment faut-il la comprendre? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, à quoi faut-il penser lorsqu'on fait Shema? À quoi faut-il penser? Eh bien, Rashi nous dit, à quoi il faut penser quand on dit le Shema? Il dit, Shema Israël, écoute Israël, Hashem, Shehu Achshav Elohenu, qui est pour le moment notre Dieu, aval lo Elohe Agoyim, mais il n'est pas le Dieu des nations, atid liot Hashem Echad Lekulam. Donc, il sera dans l'avenir un Dieu pour toute l'humanité. En d'autres termes, quand on dit deux fois par jour, Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad, on appelle à ce que Zecharia vient conclure dans sa version de Gog ou Magog. Vaya bayom ahui, Hashem Echad, Ushemo Echad. Alors que la conclusion de Yeheskel, eh bien, on l'a dit tous les jours, pas deux fois par jour, mais j'ai envie de te dire 20 fois par jour, à chaque fois qu'on dit le Kaddish. À chaque fois qu'on dit le Kaddish, on ouvre en disant « Hitgadal veHitkadash Shemei Rabba ». D'où vient cette phrase « Hitgadal veHitkadash Shemei Rabba » en araméen? Eh bien, elle vient du verset de Yeheskel. Veitgadilti, veitgadishti, leinamim rabim. Donc, les conclusions de Milchemet Gog ou Magog, eh bien, on les appelle de nos voeux tous les jours. Est-ce que ça veut dire, eh bien, que nous sommes en attente d'une guerre sanglante et terrible? Eh bien, pas du tout. Et là, je voudrais qu'on fasse bien la différence entre les conclusions de la guerre et la guerre en elle-même. Les conclusions de la guerre sont extrêmement positives. Nous a dit le Rav Kook, à chaque fois, c'est le réveil messianique. Ça fait évoluer le monde. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu y arriver autrement, sans la guerre? Bien sûr qu'on aurait pu, et on aurait préféré. Mais la conclusion en elle-même, elle est évidemment extrêmement positive. Quand je vous dis, ça aurait pu être évité, on aurait pu le faire autrement. Vous pouvez peut-être me répondre, oui, mais attention, c'est marqué dans Yeheskel que Gog ou Magog, alors pourquoi tu parles d'éviter? Je me permets de vous rappeler ce qui est marqué dans le noir sur blanc, dans la Gemara, dans le traité de Megillah, que toute Nevoa, qui est une pouranout, qui est une Nevoa de malheur, peut être évitée. Une Nevoa de bien, elle doit arriver. Mais une névoie de malheur peut être évitée. Si on fait tchouva, si on arrive à passer outre nos problèmes internes, alors ça va aller gavrer. On passera à la conclusion sans passer par le chemin terrible de la guerre. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de passer par Milchemet Gog ou Magog pour arriver à Itgadilti veItkadishti leinei amim rabim. Ça, c'est la première chose. Même si pour le moment, j'avoue être assez, si je veux être réaliste, je pense être assez pragmatique en disant que je vois mal comment on va pouvoir passer à ça sans passer par la guerre. Mais à Levaï ou Bezrat Hashem, qu'on ne soit pas obligé de passer par là. Parce que si on comprend bien le rôle de cette guerre, c'est d'arriver à Gilui Hashem Baolam, dévoiler Dieu dans le monde. Aux yeux de qui? Eh bien, aux yeux du monde entier. Pour cela, il faut tout d'abord, eh bien, qu'il soit connu, clair et dévoilé aux yeux du peuple juif. Eh oui. Ainsi, lorsqu'on va parler donc de cette milchama de Gog et Magog, eh bien, il va falloir d'abord que nous, on sache qui on est. Parce que Veit Gadilti, Veit Kadishti, Leine Amim Rabim, ça passe et ça ne marchera que si Am Israël, il porte aussi haut et fort, eh bien, ce concept-là. Mais si Am Israël abandonne le concept de Gilou Yashem Baolam, ben, on ne pourra pas réussir à le dévoiler non plus aux autres. Donc, ok, maintenant qu'on a dit cela, Eh bien, il va falloir qu'on commence à s'intéresser de plus près. Ah, mais c'est qui? C'est quoi? C'est quand? Milchemet Gog Magog. On a l'habitude de lire le texte de Gog Magog à Soukhot. Et nous disent nos sages que la Milchama aura lieu à Soukhot. Est-ce que ça veut dire que c'est obligé que ça ait lieu à Soukhot? Atchouva, l'eau. De la même façon qu'on a dit que c'est pas obligé que ça ait lieu Bichlal, c'est pas obligé que ça ait lieu à Soukhot, mamash, physiquement, concrètement. Par contre, ça veut dire que c'est relié à Soukhot. Je vous explique. Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, à la page 95, nous raconte que les goyim viennent voir Akadosh Baruch Hu, l'Atid Lavo, et se plaignent en disant « Ouais, ben, c'est normal que les juifs, tu les préfères, ils ont les mitzvot. Nous, on n'a pas de mitzvah pour te faire kiffer. » Et Dieu répond, très bien, vous voulez une mitzvah? Viens là, demandez, il n'y a qu'à demander. Et ils demandent une mitzvah, et Dieu leur donne mitzvah tsuka. Mitzvah tsuka. Voilà ce que Dieu va donner aux goyim. Aha! Pourquoi mitzvah tsuka? À quoi sert la tsuka? Quel est le rôle de la tsuka? Eh bien, on le dit dans les tfilot. Vayifros aleinu tsukat shelomo. Donc la tsuka, son but, c'est de faire le shalom. Aha! Donc quand on te dit que les goyim, ils demandent mitzvah tsuka, ça veut dire qu'en fait, ils veulent quoi? Ils veulent la sotte shalom. Est-ce que vous avez connaissance de moments où les goyim se sont éveillés à la volonté de faire le shalom? Oui, non, non, oui. Il y a eu plusieurs moments où les goyim se sont élevés à cette conscience de faire la paix. Il y a eu une première tentative avec la Pax Romana. Les Romains voulaient faire la paix dans le monde. Bon, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, évidemment? Parce que la Pax Romana a été mise en place par la guerre. C'est-à-dire, en fait, c'était quoi la Pax Romana? C'était, viens, on fait la guerre à tout le monde, on explose tout le monde, et donc maintenant, il y aura la paix romaine. Donc, c'est évidemment que ça n'a pas marché. Il y a eu une autre tentative, mais qui était comme deux gouttes d'eau ressemblantes à la Pax Romana. C'était la tentative de l'impérialisme napoléonien. Que l'Europe soit complètement dominée par Napoléon, et donc plus personne ne se fera la guerre. Mais là encore, il a fallu d'abord passer par les guerres napoléoniennes. Et finalement, il a perdu. Et puis, il y a eu un autre moment où les nations ont essayé de faire la paix. Vous connaissez ce moment, c'était quoi? La SDN. La SDN, la Société des Nations, juste après la Première Guerre mondiale, les nations ont demandé, Zéo, on va créer un organisme qui va avoir pour rôle de faire la paix. Et puis après, on va faire une modernisation de cet organisme, l'ONU, qui a pour une seule mission de faire régner la paix dans le monde. Donc, si on va en revenir à nos concepts juifs, il y a donc cette dimension des goyim qui demande à faire une souka. La sot souka. C'est-à-dire, shalom. Seulement, la Gemara là-bas continue en disant que Akadosh Baruch Hu veut voir à quel point ils sont convaincus par cet idéal. Et donc, il sort le soleil de son étui. Il fait très chaud. Et là, les goyim sortent de la souka parce qu'il fait trop chaud. Vous allez me dire, bah, ça c'est permis. Amitztaer patur minasuka. La Gemara, oui, c'est permis, mais le problème, c'est que eux aiment boatim basuka veyotzim. Ils tapent dans la souka et sortent. En gros, ils sont très contents de sortir de la souka. En d'autres termes, ils n'y sont pas encore. Le but est là, la volonté de faire le shalom est là, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça n'a pas marché ni après la Première Guerre mondiale, ni après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on vit ces derniers jours, c'est la preuve que ça ne marche pas. Que pour l'instant, il manque quelque chose. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui manque. Donc, ils ont essayé de faire la paix, ça n'a pas marché. Mais parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, Zedavar Gadol Meod Meod. Dit le prophète Ishayahu Anavi. Al tizkeru rishonot. Ve kadmoniot al titbonanu. Hineni ose chadasha ata titzmach. Ma ze? Al tizkeru rishonot. Il semblerait qu'il s'est passé un truc en premier lieu. Il ne faut pas s'en rappeler. Aval kadmoniot, ce qui s'est passé encore avant le premier lieu, al titbonanu. N'essaie même pas de regarder. C'est les premiers, tu ne t'en rappelles pas, mais tu sais que c'est là. Le deuxième, qui en fait était encore en avant, al titbonanu, bichlal. Ineni ose chadasha ata titzmach, le Talmud essaie de nous expliquer ce verset de Ishayahu. Et dit, al tizkeru rishonot ze shi'abud malchuyot. וקדמוניות אל תתבוננו, זה יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, זה גוג ומגוג. Alors de quoi on est en train de parler, les amis? Qu'est-ce que nous enseigne ici le Talmud? Il y a eu trois moments dans l'histoire du Ham Israël où on a pris en main notre destinée. Deux que nous avons déjà vécues, et une autre que nous allons vivre, ou que nous sommes en train de vivre. La première fois, on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte, et lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, on a reçu la Torah. Ko tomar levet Yaakov. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, bien qu'on ait, on est devenu véritablement indépendant, on a mis en avant notre dimension jacobienne. Yaakovit. Kedushat Torah Pratit. Vous allez me dire, mais non, attends, on est en train de s'aller avec Yoshua, et ensuite on a conquis, on a fait le royauté, la royauté d'Israël. Oui, mais on peut. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la royauté d'Israël n'a pas marché. Donc, quand on nous dit Altiskeru, Rishonot, Zeshiabud Malchuyot. Mais c'est quoi Shi'abud Malchuyot? C'est l'État d'Israël. Shi'abud Malchuyot, la fin de l'asservissement des nations, c'est ce que nous on appelle en français l'État d'Israël. Donc on nous dit le Passouk, viendra un temps où il va se passer un truc qui fera que même la création de l'État d'Israël passera pour quelque chose de très très petit, et Bichla, la sortie d'Égypte, on ne s'en parle même pas. Il est né au Sech Hadasha Atat Itzmar, c'est quoi? C'est, nous dit Srazal, Gog ou Magog. Quand on sort d'Égypte, on atteint notre dimension de Yaakov. Quand on revient, on crée l'État d'Israël, on devient Israël. Et Gog ou Magog, c'est la dimension de Yeshurun. Yeshurun, c'est notre dimension et notre devoir universel. Et nous avons donc un rôle universel à jouer à ce moment-là. C'est ça que va avoir pour rôle Milchemet Gog ou Magog. Que Am Israël prenne son rôle de phare des nations au sérieux. Soyons très clairs, pour l'instant, nous ne le prenons absolument pas au sérieux. Et donc, c'est ça, Milchemet Gog Magog. Arriver à cette dimension d'universalisme. Pas d'impérialisme, pas de colonialisme, de message universel à l'humanité. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de Milchama. Est-ce qu'il s'agira d'une Milchama, ou est-ce qu'il la s'agit, ou est-ce qu'il s'agit d'une milchama avec des bombes, des fusils, des armes? Ou est-ce qu'il s'agira d'une milchama, je ne sais pas moi, économique, ou alors politique, ou alors, je ne sais guère, ça peut être une milchama psychologique. Il n'est absolument pas obligatoire que cette milchama soit une milchama par les armes, même si encore une fois, vu la conjoncture actuelle, c'est ça qui semble le plus probable. Mais ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est bien de s'en rappeler. Maintenant qu'on a dit cela, alors, ok. Essayons de rentrer dans le pourquoi du comment, dans le qui que quoi qu'est-ce. C'est quoi Milchemet Gog ou Magog? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les poskim, les commentateurs, se sont énormément penchés sur la question de Gog ou Magog. Eh bien, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'ils ne sont évidemment pas d'accord. Évidemment. Par exemple, eh bien, si on va essayer de comprendre qui sont les protagonistes, et je vous le dis avant même qu'on lise le texte, qui sont les protagonistes de Gog ou Magog, eh bien, il y a plusieurs avis qui ont été évidemment donnés. Parmi les premiers avis qui ont été donnés, je le prends ici, on va retrouver dans le Talmud à Yerushalmi que Magog, c'est où? Puisque tout le monde plus ou moins s'accorde à dire que Gog, c'est le nom d'un bonhomme, et Magog, c'est le nom d'un endroit. Eh bien, pour le Talmud à Yerushalmi, Magog, c'est Gitea. Mais ma c'est Gitea. Pour la traduction de Nathan Ben Uziel, Gitea, c'est tout simplement Germania. Donc, d'après Jonathan Ben Uziel, il semblerait que notre affrontement serait, et je parle au conditionnel évidemment, avec l'Allemagne. Je vous vois venir. Non. La Deuxième Guerre mondiale, ça ne peut pas être considéré comme Gog ou Magog. Pourquoi? Eh bien, parce que Milchemet Gog ou Magog, c'est une guerre qui a lieu Ben Ma'alach à Géoula. Durant la période de la Géoula, qui doit amener à l'avènement soit messianique, soit eh bien, de la domination de Dieu. Car oui, ce n'est pas obligatoire qu'à la fin de la guerre de Gog ou Magog, il y ait le Mashiach. Il y a un avis qui dit que le Mashiach viendra avant et qu'il y aura après Gog ou Magog. Un avis qui dit qu'il y aura d'abord la guerre et ensuite on parlera du Mashiach. Et un avis qui dit qu'au début de la guerre, il n'y aura pas le Mashiach et qu'au milieu de la guerre, il y aura le Mashiach et qu'à la fin de la guerre, il sera Mamash Mashiach. Nounou. Dans tous les cas, eh bien, la guerre qu'on a eu à faire contre l'Allemagne nazie ne peut pas être considérée comme Gog ou Magog. Pourquoi? Car l'Allemagne nazie, un, ne s'est pas battue contre le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il a voulu détruire le Ham Israël, évidemment. Mais la guerre, nous, on ne l'a pas menée. Ce n'est pas contre nous comme entité politique nationale que l'Allemagne a fait la guerre. Et d'autre part, c'est une guerre qui a lieu avant la Géoula. Et donc, l'Allemagne nazie et la Shoah, ça ne peut pas être considéré comme étant Gog ou Magog. Ça peut être considéré comme ce qu'on appelle Hevelé Mashiach. Les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Donc, il semblerait qu'on parle d'un autre événement face à l'Allemagne, d'après le Yerushalmi et la traduction de Nathan Ben Uziel. D'après le Talmud de Babylone, eh bien, Magog serait Kandia. Mais c'est Kanadia. Bon, je rassure, ce n'est pas le Canada. Kanadia, c'est, on va dire, une bourgade. Enfin, c'est localisé plus ou moins dans l'Afrique actuelle. Contre qui? C'est pas clair. D'un autre côté, Rabbeinu Saadia Gaon nous dit que ça sera contre l'Iran. Enfin, il parle pas d'Iran, évidemment, parce qu'il n'y a pas l'Iran à l'époque de Rabbeinu Saadia Gaon, bien évidemment. Mais pour Rabbeinu Saadia Gaon, ça se passe dans le coin de ce qui est aujourd'hui l'Iran. C'est d'ailleurs une possibilité au vu de ce qui se passe en ce moment avec l'Iran. Donc c'est possible que ce soit ça, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et plus important que cela, eh bien, il faut se rappeler d'une chose quand même très, 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 très centrale, c'est que cette milchama, qu'elle soit contre l'un, l'autre ou le troisième, va drainer une telle prise de conscience au sein du peuple juif et dans le monde entier, eh bien, qu'elle va avoir un retentissement dans le monde entier. La première tentative de Gog ou Magog, nous dit le Talmud, la première tentative, c'est Abraham qui se bat contre les quatre rois babyloniens. C'est la première tentative de Milchemet Gog ou Magog. Finalement, ça n'a pas marché, ça n'a pas été Gog ou Magog. Donc, le Talmud nous dit alors, il y a eu une autre guerre qui s'est passée beaucoup plus tard par rapport à Abraham, il y a 2700 ans, et les Malachim ont dit, bah ça, cette guerre-là, c'est très bien, allez, Gog ou Magog. C'est la guerre que mène Chizkiyahou Melech Yehuda contre Sanhérive. Malaché Hacharet, les anges, ont voulu faire de cette guerre-là, de Sanhérive et de ses hommes, Gog ou Magog, de Sanhérive, de Chizkiyahou, le Mashiach, et puis Yallah, c'est parti. Et finalement, ça n'a pas été le cas, puisque Chizkiyahou n'a pas dit le Hallel à son Yom HaAtzmaout à lui, et bien finalement, ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas devenu la guerre de la fin des temps, et puis là, on y va. Mais le fait que la Gemara me donne deux avis possibles de qu'est-ce qui aurait dû être Gog ou Magog, eh bien ça me montre qu'encore une fois, il s'agit ici d'une possibilité, une éventualité de l'histoire, mais certainement pas une nécessité. Que donc, eh bien, Gog ou Magog peuvent prendre bien des visages. Ok ? Donc ça, c'est très très important. Et je me permets, quand je dis que la légitimité de ce cours vient du fait que nous, on fait un cours sur la prophétie qui s'est réalisée, ou qui se réalise. Si je parle uniquement de l'avenir, alors c'est un cours, pourquoi pas, Gog ou Magog, mais à ce moment-là, quel rapport avec notre cours ? Eh bien, tout simplement parce que il y a un avis au XXe siècle, et pas des moindres, qui a dit que Milchemet Gog ou Magog a déjà eu lieu. Hoppa ! C'est qui ce rabbin ? Eh bien, ce rabbin, c'est Rav Menachem Mendel Kasher. Mise Rabbi Menachem Mendel Kasher, eh bien, le Rav Kasher est très certainement l'un des plus, comment le décrire, l'un des plus grands bibliothécaires de l'histoire. L'un des plus grands bibliothécaires de l'histoire. Je pense que c'est une bonne définition. Rav Kasher, il a quand même écrit un livre qui s'appelle Torah Shlema. Et je vous montre. Je vous montre le Rav Menachem Mendel Kasher. Et voilà à quoi il ressemblait. Pour ceux qui veulent voir. Donc le Rav Menachem Mendel Kasher. Ouais, je sais pas si tout le monde voit bien. Ouais, c'est bon. Yofi. Donc le Rav Menachem Mendel Kasher, eh bien, a écrit un texte qui s'appelle Torah Shlema. Et en fait, c'est un texte, c'est un livre qui fait, je crois, 35 ou 40 volumes. C'est énorme. Et c'est une encyclopédie de tout sur tout ce qui a été dit dans la Torah, sur la Torah. Y a tout. C'est-à-dire que si tu as entendu parler d'un minag qui vient de la partie sud-ouest du Théman, du Yémen du Nord, il sera dans la Torah Shlema. C'est-à-dire que Torah Shlema, c'est pas tant un livre de commentaires qu'un livre de récupération et qui nous donne une vision Shlema de toute la Torah Kula. Eh bien, le Rav Menachem Mendel Kasher pensait que Milchemet Gog ou Magog, c'était Milchemet Yom HaKippurim. Pour lui, la guerre de Kippour, c'était Milchemet Gog ou Magog. Ken, Lo, Dien. J'en sais rien, c'est pas le débat. Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait pas raison? C'est pas le débat. Mais ça montre que l'un des avis du judaïsme, et je vous dis pas des moindres, eh bien, pense que Milchemet Gog ou Magog a déjà eu lieu. J'avoue que c'est pas l'essentiel du mainstream de nos sages. Ou Becholzot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on pense à Milchemet Gog ou Magog? Je vous propose de commencer à rentrer dans le texte. On a fait une belle introduction là-dessus. Je vous propose maintenant de rentrer directement dans le texte de la Torah, dans le texte du prophète Yechezkel au chapitre 37. Ok ? Donc ceux qui veulent prendre un Tanakh, alors c'est parti. Sefer Yechezkel. Inès, je prends également. Voilà. Yechezkel Hanavi. Et c'est parti. Chapitre donc 38 et 39. Tac. הנה. ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם. Et là, tout de suite, on lance l'ouverture des hostilités. Comment est appelé Yechezkel Hanavi? Ben Adam. C'est pas la première fois où Yechezkel est appelé comme ça, mais Yechezkel est le seul des Nevi'im qui s'appelle Ben Adam. Or, Ben Adam, c'est également le nom du Mashiach. En d'autres termes, cette névoie-là est annonciatrice de l'avènement messianique. Ben Adam, sim panecha el Gog, eretz amagog, nesi, rosh, meshech vetuval, vinnabe alav. Ok, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, on a une indication géographique. Et cette indication géographique nous dit que ce Nessi Magog, eh bien, il est Rosh Meshech Vetuval Veinabe Alav. Et là, tout de suite, il faut s'arrêter. Puisque on va voir un tout petit peu plus loin dans le texte. Inès, je le lis simplement, mais je reviendrai là-dessus. Quand on dit va Marta Koamar Adonai Elohim, Inneni Elecha Gog Nessi Rosh Meshech Vetuval. ושובבתיך ונחתי חיי חכים בלחייך והוצאתי אותך ואת כל חיליך סוסים ופרשים לבושי נכלול כולם קהל רב צינה ומגן תופסי חרבות כולם פרס כוש ופוט איתם כולם מגן וכובע גומר וכל אגפיה בית תוגרמה וירקתי צפון ואת כל אגפיו עמים רבים איתך. On a ici plein de localités qui sont mises en avant. Mais on ne peut pas ne pas faire, ne pas mettre en surbrillance trois d'entre eux. D'un côté, Paras. D'un autre côté, eh bien, Kush, Veput. Et enfin, Gomer, Vetuval. Car c'est très important de se rappeler encore une fois de qui est qui. Paras. Aujourd'hui, on la connaît très bien, c'est l'Iran. Kush Veput, c'est où? C'est d'un côté le monde africain et de l'autre côté le monde de la péninsule arabique. Et quand on parle de Gomer Vetuval, ce sont les peuples d'Europe. Il y a donc ici un arc qui englobe l'Europe, la Perse, et le monde arabe sunnite, musulman sunnite. En d'autres termes, nous avons ici les trois grands centres de ce qui fait aujourd'hui les conflits du monde moderne. L'Europe, le monde occidental, et le monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite. En d'autres termes, il semblerait que Milchemet Gog ou Magog, eh bien, c'est ce qui doit terminer la lutte entre Esav et Ishmael. Esav et Ishmael prétendent tous les deux, à leur façon, que Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est chez eux. Esav le prétend en étant l'héritier du christianisme, et Ishmael le prétend en étant l'héritier de l'islam. Le christianisme dit que, eh bien, ils sont devenus le vrai Israël. Quant à l'islam, il dit qu'ils ont toujours été Israël jusque les Juifs ont falsifié la Torah. Ce qui veut dire que notre réponse doit être donnée à ces gens-là. C'est-à-dire que nous devons, et c'est ce que nous avons comme rôle, eh bien de tout simplement être capables de donner un son de cloche dans ce combat de civilisation qui est le nôtre aujourd'hui. Vous allez me dire, et qu'en est-il de l'Extrême-Orient? Il n'est pas mentionné ici dans Milchemet Gog Magog, dans le livre de Yechezkel. Nachon. Pourquoi? Parce que l'Extrême-Orient n'a jamais véritablement été, et a cessé du moins de l'être aujourd'hui, une puissance centrale, pas au niveau économique, ça ils le sont, pas au niveau militaire, ils le sont sûrement, mais au niveau des idées. Au niveau des valeurs qui sont prônées. C'est pas par là-bas que ça se passe. Et donc, Am Israël doit avoir ben, un avis sur la question. Et le problème, c'est lorsque Am Israël ne parle pas. Le monde entier attend de nous qu'on dise quelque chose et on ne dit rien. Et à Kadosh Baruch Hu, on a marre qu'on ne dise rien. Et donc, il prend les choses en main et il envoie un chamboulement tel dans le monde pour que, ben, ça y est, on prenne conscience de la chose. Ein mala asot. Am Israël se doit, eh bien, de donner son avis sur comment doit être la relation avec le divin. Je pense que, tout à l'heure, quelqu'un me demandait de faire l'analyse de ce qui se passe en ce moment, mais j'ai dit c'est trop tôt, mais il y a une chose qui est évidente, qu'on voit déjà depuis plus qu'une semaine. Vous avez bien conscience que la question, c'est Arabaït. Toutes les tensions du monde aujourd'hui, toutes les frictions, c'est sur la question du Arabaït, du monde du temple. Je n'apprends rien à personne qu'ils ont commencé à tirer sur Jérusalem le jour de Yom Yerushalayim. Et comme ultimatum, c'est qu'il fallait qu'il n'y ait aucun juif sur le mont du Temple. C'est-à-dire que tout le monde ici, on a... que les choses soient bien claires. Personne dans le monde entier, qu'il soit musulman ou pas, en vrai, n'en a rien à faire de la cause palestinienne. Mais la question, c'est est-ce qu'on profane Al-Aqsa ou est-ce qu'on profane pas Al-Aqsa ? La question, c'est Yerushalayim. Et plus précisément, Arabaït. Parce qu'en fait, la question est de savoir quelle doit être la relation de l'homme avec Dieu. Pour le christianisme et l'Europe, c'est pas compliqué. La relation de l'homme à Dieu n'existe pas. Elle n'existera qu'après ta mort. Puisque le christianisme dit que l'homme est fondamentalement fauteur dans ce monde et qu'aucune de ses bonnes actions ne pourra l'emmener au Gan Eden, seule la grâce et la charité chrétienne pourront l'emmener dans l'au-delà, là où il faut. Pour les musulmans, c'est complètement autre, c'est l'inverse. Le monde n'est que soumission à Dieu. L'Europe occidentale, qui a abandonné la pratique du christianisme et qui est fondamentalement chrétienne, a placé l'homme au centre du monde. L'islam a placé Dieu au centre du monde. Et le judaïsme dans tout ça? Quel est notre avis dans toute la question? Qui est au centre du monde? Dieu ou l'homme? Eh bien, la réponse est très simple. Celui qui est au centre du monde, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. Et voilà un des messages que nous devons commencer à donner. Mais le Remet Gog ou Magog, c'est tel que c'est mentionné dans les premiers versets de cette histoire-là, qui nous explique que notre itmo des doutes du peuple juif sera avec ces deux pôles que sont Esav et Ishmael, pour que enfin le peuple juif puisse faire entendre son véritable message. Alors une fois qu'on a dit ça, alors on peut continuer en disant Ikon ve'achen lach, ata ve'chol ke'alecha, nik'alim alecha, va'ita lahem le'mishmar. Les peuples vont se préparer, eh bien, à garder très fortement leur idéologie. Miyamim rabim, תיפקד באחרית השנים, תבוא אל ארץ משובבת, מחרב, מקובצת מעמים רבים, על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד. והיא מעמים הוצאה, Vayashvu la betar kulam. Gog ou Magog, c'est parce que ça les dérange beaucoup qu'on soit revenu en Israël. Pourquoi ça les dérange? Parce que voyant le peuple juif revenir en Israël, il y a deux solutions. Soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties, soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties. C'est-à-dire, soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties et tu es tellement content parce que tu sais que ça va aussi influer sur toi. Soit tu comprends qu'ils sont en train de réaliser les prophéties et tu es terriblement déçu parce que tu pensais que ça allait passer par toi. Et c'est toute la différence. C'est notre... enfin, actuellement, nous vivons dans un monde qui est le deuxième, où il y a une jalousie fantastique sur le peuple juif. Combien ça a dû leur faire mal dans toutes les chaînes d'infos en France de dire du bien d'Israël pour la sortie du corona. Combien ça a dû être dur. Altidagou, ça y est, ils ont retrouvé les bonnes habitudes et ils redisent à quel point on est des barbares et c'est notre faute si tous les enfants du monde meurent sous nos bombes. Voilà, ils ont repris le chemin du mensonge, ils ont repris le chemin de la calomnie, ils sont contents et voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. J'étais d'ailleurs très heureux d'entendre le ministre Cohen qui a dit, aujourd'hui ou hier, je ne me rappelle plus, non, je crois que c'est aujourd'hui, il a dit, non mais enfin, parce que quelqu'un lui demandait, pourquoi vous n'avez pas annulé le Rikout Galim, la parade des drapeaux? Pourquoi vous n'avez pas annulé la parade des drapeaux? Il a dit, ça va bien, oui, on va annuler la parade des drapeaux de Yom Yerushalayim parce que le Hamas y menace. Mais on fête la victoire et la réunification de Jérusalem. On ne va certainement pas annuler parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Évidemment. Quelqu'un a demandé, est-ce que la Shoah, c'est aussi une question de jalousie? Non. La Shoah, ce n'est pas une question de jalousie. La Shoah, c'est une question, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, on sera toujours jalousé. Alors, je réponds d'abord à la première. Non, la Shoah n'est pas une question de jalousie. La Shoah, c'est l'accumulation de 2000 ans, que dis-je 2000 ans, de 3500 ans de haine, pas de jalousie, de haine, qui commence avec l'animosité entre Esav et Yaakov. Il n'est pas jaloux, parce que tu es jaloux de quelqu'un qui a mérité quelque chose, et toi tu aurais voulu aussi. Là, il est extrêmement en colère contre Yaakov qui lui a appris quelque chose. Et donc, ces 2000 ans, voire 3500 ans de haine, auxquels on a enlevé le frein de la religion. L'Europe étant devenue laïque, mais ayant hérité de la haine anti-juive depuis des millénaires, eh bien la Shoah a pu être possible. Et quand on dit « quoi qu'il arrive, on se fera toujours jalouser », je réponds « non ». Lorsqu'on sera véritablement ce qu'on est censé être, alors, on ne sera pas jalousé, parce que les autres comprendront que ça leur fait du bien aussi. Et pour l'instant, on ne le fait pas. Et ça, c'est un vrai problème. Comment doit se dérouler concrètement cette milchama de Gog ou Magog? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons. La semaine prochaine, c'était la première partie de Gog ou Magog. On reprendra la semaine prochaine. S'il y a des questions, c'est maintenant.
Merci beaucoup.